Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le retour sur ce grand trail du lac que j'ai remporté. Et du coup, on peut noter que je gagne une course par an. Imaginez un jour, c'est l'UTMB. Ah, hein? Eh, quand même, hein? Mais non, là c'est le grand trail du lac. Alors c'est sympa aussi. La préparation, vous avez pu la voir la semaine dernière avec ce que j'envisageais. On y reviendra, les temps de passage étaient relativement coquins sur la fin de course. Bref. Alors comment ça s'est passé? Je travaillais le samedi, mais ce n'était pas très grave puisque j'étais assis devant un écran à commenter une course. Donc, hormis un aller-retour en voiture de 2 heures, rien de très très compliqué, des horaires agréables puisque ça, c'était seulement de 9h à 18h, enfin sans compter la route, mais bon, ça allait, pas de nuit embêtée. Donc vraiment j'arrivais dans de bonnes conditions et dès le départ ça se confirme puisque ma stratégie de partir à 15 km/h sur l'ensemble des 11 premiers kilomètres de plat s'avère payante. Je ne trouve pas ça excessivement difficile, bien que ça provoque, et on le voit sur le document, je vous ai mis la courbe cardio, ça provoque une augmentation progressive du cardio, et vous le voyez, c'est très très linéaire, jusqu'à atteindre un plateau, donc on dirait une charge de condensateur, pour ceux qui ont fait des études d'électronique, c'est absolument magnifique. Et on note justement des premiers passages en zone 4, là c'est le petit talus orange au bout de 45 minutes. Eh bien ça c'est directement quand on arrive dans les premières bosses, parce que du coup le cœur s'était stabilisé aux alentours d'un bon SV2, et à chaque fois qu'on arrive dans ces bosses, tac, ça met une petite pilule. Pas parce que j'accélère, mais le simple fait de courir en boss élève un petit peu le niveau cardiaque par rapport au plat. Et donc là, point de vue compétition, qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, tout le monde est ensemble. Vous doutez bien qu'à 15 km/h sur le plat, même si on n'est pas au Templier, il n'y a pas non plus grand monde qui est lâché. Je crois qu'on arrive au pied de la bosse à une petite vingtaine. Alors, il y a un relayeur qui est quand même légèrement devant. Il y a deux coureurs solo qui rapidement prennent un petit peu la poudre d'escampette, mais... Regardez, je vous ai mis le point de passage du premier ravito. Finalement, il n'avait que 8 et 15 secondes d'avance sur moi. Donc vraiment, rien d'excessif. On voyait leur frontal de toute manière. Malheureusement, ces deux coureurs vont être mal indiqués à la sortie du ravitaillement. En fait, ils vont faire une boucle de 1 km sur un chemin. Alors, ne me demandez pas pourquoi un bénévole les a envoyés là-bas. Tandis que moi, Aubin, Florian, il y avait Clément également, nous sommes tous descendus du Belvédère au col de la Chambotte par la route. Route qui est marquée sur trace de trail sur le parcours de la course et qui était bien sûr balisée. Donc je ne comprends pas trop pourquoi le bénévole a envoyé Mathieu et Edouard là-bas, mais bon, voilà, malheureusement, c'est un fait de course. Alors, ils reviendront jamais, parce que ce rythme que j'impose avec Aubin, on se relaye de temps à autre, ce rythme que j'impose n'est pas très rapide, on pourrait faire mieux. Voilà, là, vous voyez, je suis passé en 1h51.58, en 2020, je suis passé en 1h46, et j'étais tout juste, j'étais 11e, je crois. Ce rythme que j'impose n'est pas très très dur, néanmoins, il est un tout petit peu plus inconfortable qu'un rythme d'ultra-trail. C'est ce que je disais à Aubin pendant qu'on était en train de courir. Je disais, voilà, là, c'est plus ou moins facile, mais c'est quand même plus dur que quand on était en train de discuter au départ du trail du Saint-Jacques. Le cœur, il est quand même une quinzaine de pulses plus haut. Voilà, c'est bien sûr, on est sur la retenue, mais on est sur un effort qui va durer 7-8 heures, donc forcément, ça tabasse un petit peu, même si on peut parler d'une certaine retenue. Donc comme vous le voyez, pas vraiment d'écart hein, sur cette première partie. Globalement, tout le monde court toujours ensemble. Donc le niveau moyen là du top 10 est plutôt sur une indexation à 750, ce qui explique que voilà, il y a très peu d'écart. Alors, il n'y avait pas de très gros favoris au départ. Aubin avait la plus grande, le plus gros index avec 848. Mais derrière, entre 780 et 730, on retrouvait pas loin d'une quinzaine de sportifs. Donc, une belle densité régionale, va-t-on dire. Voilà. Et c'est souvent le cas en Savoie. Donc, comme le dira Thibaut Garivier à son interview de fin de course, on s'ennuie jamais, quoi. On vient s'inscrire au trail du coin et on se retrouve à batailler. Donc, Thibaut, pour rappel, n'a gagné avec que 4 minutes d'avance sur Elliott Rétuli. Et puis pas bien plus sur le troisième. Donc ensuite, au niveau du parcours, une fois qu'on a passé ce ravitaillement de la Chambotte, on attaque à ce qu'on peut appeler la deuxième section. Alors c'est marrant, c'est un petit peu l'inverse de la première, c'est-à-dire qu'on a une section forêt au début, une longue descente, et ensuite une section plane. Alors la section forêt, cette fois-ci, par rapport à tout à l'heure, elle est vraiment pénible, vraiment très handicapante, parce que déjà, vous le voyez sur le profil, les montées là sont particulièrement raides cette fois-ci. Donc il est vraiment difficile de courir. C'est pour ça qu'on voit sur mon cardio, je suis régulièrement en zone orange, donc la zone 4. Et lors des plats ou des redescentes, en fait, très souvent, c'est un tout petit single qui serpente dans les bois, donc vraiment très typé trail. Donc on peut pas allonger la foulée parce que ça serpente dans tous les sens. Et surtout, il y a pas mal de cailloux sur ce secteur. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, on est entre le col de la Chambotte et le col du Sapenay. On est sur les hauteurs de la commune de Cessan. On va monter un tout petit peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et ensuite, on va descendre bah, à 250. Hein, donc grosse descente qui s'effectue en deux temps. D'abord, quelques portions de route. Alors là, avec Aubin, on en profite pour faire un peu le point, discuter un peu, ça va et tout. Ouais. Et après, on attaque le vrai single. Là, c'est un très très joli single pour descendre. Pour le coup, il est pas technique. Par contre, à certains endroits, il est vraiment raide. Et j'ai dérapé deux fois, donc j'ai un peu glissé, je suis tombé un peu sur les fesses. Et malheureusement, deuxième fait de course, le premier étant l'erreur d'aiguillage des deux premiers coureurs. Deuxième fait de course, en fait, je fais une chute sans importance. Mais finalement, en me relevant et en courant un petit peu, une fois que j'arrive en bas de la descente, j'ai très très mal sous le pied droit. Alors, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être il aurait fallu s'arrêter, enlever la chaussure, regarder et repartir. J'ai pas voulu le faire parce que le rythme était bon, c'était fluide, ça courait vraiment bien. C'était sans doute une erreur. Ce café est délicieux. J'ai mon petit morceau de chocolat noir. C'était sans doute une erreur. Parce qu'après, j'ai eu mal tout le long de la course. Et vous le verrez dans le compte-rendu, en fait, ça n'a fait qu'augmenter. Donc on arrive au pied de cette descente. Je dis, oh ben, putain, j'ai mal sous le pied. En fait, ma semelle avait bougé. En tombant, je sais pas, le pied s'était tordu un peu. La semelle avait bougé et elle était remontée un peu à l'intérieur et ça m'avait cisaillé. Vous savez, la peau du pied qui est sous la voûte plantaire, qui est très très fine. Parce que autant sous le talon, on a une corne. Sous les orteils, la surface d'appui à l'avant, on a une. Enfin, moi aussi, j'ai une corne. Donc vraiment, là, ça fait des années que ma dernière ampoule doit remonter à 2017, quoi. Et là, par contre, bah, sous la plante du pied, évidemment, vu que ça touche jamais le sol, enfin, où il n'y a pas d'appui, la peau est très fine. Donc, si tu veux, mon caillou m'a vraiment niqué, quoi. Enfin, le relevé de la semaine a vraiment coupé. En fait, quand j'enlèverai la chaussette après la course, effectivement, j'avais 3 cm carrés de peau qui était parti. Donc, c'était à vif, rouge, dessous. Et bah oui, ça fait mal. Donc, on arrive sur la partie plane. Et en fait, alors là déjà, j'ai pas mal zoomé. C'est déjà assez dégueulasse comme ça. Mais c'est pas plat. Pour aller de Chandrieux à Portou, c'est pas plat. Alors déjà, il y a une petite bosse. Et on la voit bien hein, sur le cardio. Regardez. Merde, elle est où cette bosse ? Ah oui, elle est en dessous. On la voit bien, c'est-à-dire il y a toute une section de descente où finalement je me stabilise en zone 2, la zone bleue. Et regardez, dès que la descente est finie, paf ! Je remonte même presque jusqu'à la zone orange. Alors là, en fait, c'est Aubin qui courait particulièrement vite dans cette petite bosse sur la route. Alors, il n'y a même pas 50 mètres de dénivelé, hein, mais quoique si, il y a peut-être 50. Après, on descend, et là, on attaque entre guillemets la partie vraiment plane, mais pas du tout. Il y a quoi? Il y a 1 km qui est plat à la fin, qu'on va d'ailleurs effectuer à une allure de 3,50. Mais sinon, c'est que des petites bosses. Voilà, alors pour ceux qui connaissent, on va passer au-dessus du chemin de fer, dans la petite ville de... c'est quoi là où il y a le port, je sais plus. Et regardez sur la courbe cardio, en fait, on le voit, ça monte un petit peu, ça descend, ça monte un petit peu, ça descend. Et en fait, mon cardio va vraiment suivre le profil très, très légèrement accidenté. Hein. Bien sûr, les bosses, elles sont légères, on les monte à 12 de moyenne. Mais tout de même, c'est pas plat comme au départ, en fait. Après, vient le ravitaillement de Porto, au bout de 3h17. Alors, normalement, c'est pareil. Je vous ai mis le petit classement. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur ce classement? On voit que Edouard Tiret, qui est un triathlète qui avait remporté la course l'an passé, bon, il l'avait remporté en 8h20 ou 8h30, hein, donc il fallait pas s'exciter cette année non plus. Edouard a fait le forcing pour essayer de revenir sur nous. Alors, vu l'allure qu'on imprimait, à mon avis, il s'est cramé. Et Mathieu Augier a été un peu plus sage, concédant quelques secondes à Edouard. Et vous le verrez, il a eu raison. Fait de course intéressant, Antonin Marécaille, qui était 10e au premier pointage, est déjà remonté à la 5e place. Et c'est lui qui va finir 3e, alors que Florian Jubeau, malheureusement, recule et il finira 12e. Ensuite, de Porto à Ontex, là, c'est le moment où on va changer de rythme. Alors, regardez sur le profil, il y a encore 2 bons kilomètres de plat à se farcir. Là, c'est un petit single au bord du canal, donc on l'a effectué à 14 de moyenne avec Aubin, et arrivé au pied de la bosse, je lui dis, écoute Aubin, c'est très très bien, on a eu une très bonne allure jusque-là. Maintenant, on va gérer cette bosse, et surtout cette descente sur Chernaz, qui est toute petite, mais qui est très technique. En fait, il y a un petit passage en caillou avec la corde, et c'est très humide autour de Chernaz. En fait, Chernaz, c'est une ville autour d'un canal. Enfin, le canal entoure la ville. Du coup, vous avez une très très grosse humidité qui remonte à l'automne, et au printemps aussi. C'est très glissant, en fait. C'est très très glissant, c'est très très gras. D'ailleurs, cette montée, en fait, on va pas vraiment gagner du temps sur les autres, parce que cette montée, tout le monde doit l'effectuer en marchant, vu que c'est un petit single qui monte droit dans la pente, dans les herbes et la boue. Donc, bah, vous imaginez bien, une fois que c'est gras, en fait, dès que vous posez le pied, il recule. Donc, à aucun moment, vous pouvez courir et déjà marcher, faut faire attention. Et la descente, bah, comme j'avais dit à Aubin, tu verras, c'est dangereux. Effectivement, on a fait très attention. Ensuite, on arrive à Chernaz. C'est au bout d'un tiers de cette section. Et là, vous avez une longue montée, mais qui n'est jamais très raide. Regardez les pourcentages, ils sont en bleu clair par rapport à bleu foncé. Donc là, vraiment, pour pas mal de trailers, ça va se courir. Et là, je dis à Aubin, je lui dis, écoute, là, de Chernaz au col du Chat, il y a 20 km. Ça va durer 2 heures et ça va être très dur. Parce qu'on va courir tout le long et on va essayer de courir vite. Là, c'est le moment où je décide, et c'est ce que j'avais prévu en amont, d'accélérer le rythme. Alors, je suis pas tout à fait sûr que j'ai accéléré le rythme. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'y ai mis plus d'intention. C'est-à-dire que quand j'arrivais dans une montée, avant, je ne faisais que trottiner gentiment, sans me poser de questions. Mais du fait de ma fraîcheur, évidemment, j'allais à une certaine vitesse. Là, j'arrive dans la montée, je me force à courir vite. Mais avec la fatigue, on est quasiment à 4 heures de course à ce moment-là. Avec la fatigue, forcément, même si tu forces pour courir plus vite, en fait, tu ne peux que maintenir l'allure finalement. Ou l'augmenter, mais vraiment, bon, c'est dur à dire, tu vois, entre 10 et 10,5 km/h. Voilà. Mais d'un point de vue intentionnel, voilà ce que je voulais vous transmettre. Donc, en entendant ça, évidemment, Aubin, il aime pas trop, hein, ces parties roulantes. Alors, je suis pas non plus un grand expert, mais moi, je suis plutôt complet. Du coup, il me parle plus. Et surtout, il ne me passe absolument plus aucun relais. À savoir que c'est lui qui avait effectué la montée après Porto, lui qui avait effectué le plat au sommet de la bosse, et moi la descente. Et puis là, toute la montée, il va être derrière. Toute la descente, il va être derrière. Et arrivé au pied de la montée d'Ontex, en fait, cette montée est pas... elle les raid vraiment uniquement sur le dernier tiers. Donc les deux premiers tiers, Aubin est derrière moi, il s'accroche parce que ça court pas mal, et puis c'est pas très raid, donc vraiment ça l'agace un peu. Et sur la dernière partie raid, en fait, lui du coup s'est dit, bah, je me relaxe un peu dans cette partie raid, je vais pouvoir marcher de manière efficace. Et moi je lui ai dit, écoute, je me sens très très bien, je vais continuer à la courir parce que là vraiment c'est très fluide. Et donc nos chemins se sont séparés 500 mètres avant le ravitaillement d'Ontex. Au ravitaillement d'Ontex, je demande pas s'il y a des gens derrière, hein, parce que vu l'allure où je suis monté, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Et on peut le voir, hein, Mathieu Augier, à Portou, il était à 5 minutes 30. Et là, en l'espace d'1h30 d'effort, on lui a mis 8 minutes dans la vue. Il a pris 8 minutes en 1h30, donc c'est assez conséquent. On voit qu'Antonin Marika, il lui a vraiment très très bien géré sa course, il est remonté un petit peu. D'ailleurs, on lui met 10 minutes, et il avait... Ah oui, il avait 6 minutes de retard, donc il en a pris quand même 4. Hein. Même Antonin, qui effectue plutôt une remontée, a pris 4 minutes en l'espace d'1h30, donc bon, là aussi, pas d'inquiétude. Et puis ensuite on voit Florian Jubaud qui continue un petit peu à reculer, hein, la fatigue était présente. Kevin Dudan qui est un petit peu remonté, hein, lui aussi en fait il a fait ce petit kilomètre en plus là au niveau de la Chambotte, mais bon. On arrive ensuite à la section un peu relou, parce que là déjà vous avez beaucoup couru en piste forestière, tout ça et tout, vraiment commencez à en avoir plein les bottes, hein, moi 4h47 de course à Ontex, et vous avez envie de passer à une version un peu plus montagne. Mais il faut encore patienter 8 km. Et là, c'est vraiment très pénible parce que sur cette section, on monte sur piste forestière et on descend sur piste forestière. Alors, ça reste de la forêt, ça reste agréable à voir, à courir. Mais c'est un moment donné où on en a un petit peu marre. On est un petit peu lassé de ce genre de choses. Et on attend surtout impatiemment le juge de paix. Alors, rassurez-vous, le juge de paix, il arrive. Moi, je continue à respecter mon plan nutritionnel à la lettre, et par contre, sur cette section, j'ai senti vraiment, cette fois-ci, que j'étais handicapé par mon pied droit, que je n'arrivais plus trop à poser correctement, et bon, je pense que là, sans ampoule, il y a une minute ou deux à gagner. Ouais, parce que j'ai pas attaqué les descentes comme je le voudrais, bon, ça m'a un peu déstabilisé, et vous le voyez sur le cardio, bah effectivement, alors... C'est vraiment pas raide ici, hein, donc c'est dur de le faire monter le cardio. Mais je ne suis pas retourné en zone 4. J'aurais éventuellement pu le faire. Voilà. Et on voit que sur les descentes, j'ai commencé à descendre un petit peu aussi. Après, il faut savoir que le cardio, au bout d'un moment, tu peux plus trop faire un joujou avec. Hein, on en est quand même à plus de 5 heures d'effort. Mais à mon avis, cette section, il y a moyen de faire mieux. Autant jusqu'à Ontex... Je serais vraiment très dubitatif sur la manière de faire plus vite. Je pense que ce serait prendre de grands risques. Autant là, cette section, il y a moyen de faire mieux. Je parle bien sûr de mon niveau. Hein. Si vous prenez un coureur plus fort, évidemment, il va arriver plus vite au ravitaillement d'Ontex. Et au ravitaillement du coin du bois, bah rien n'a changé. Alors par contre, Aubin a pris un éclat. Hein. Il arrivera 6 minutes 15 après moi. Donc là, il a perdu 5 minutes 45 en l'espace de 8 km, ce qui est absolument énorme. Et à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, ça le gonfle et il finit à l'arrêt. Et cas de figure numéro 2, l'athlète a une réaction d'orgueil et il se relance. Et je vous spoil un petit peu, Aubin s'est relancé. Et en fait, c'était un peu ma crainte quand il a voulu marcher avant Ontex. J'ai senti qu'il y avait un ras-le-bol chez lui. Et il faut savoir, parfois, Aubin a des réactions excessives et marque des arrêts très fermes dans ses courses, voire même abandonne, hein, comme à l'UTMB 2021. Il n'y avait pas vraiment de très grande raison d'abandonner. Il aurait pu gérer et repartir plus fort après. Bah, je suis d'ailleurs quasiment convaincu qu'il en était capable. Et au lieu de ça, il a dit « je suis pas bien, ça me fait chier, j'arrête ». Voilà. Donc là-dessus, on a une mentalité un peu différente. Et c'est pour ça que je me méfiais de sa C'est pour ça que je suis parti tout seul et que je ne l'ai pas attendu au ravitaillement d'Ontex. Parce que je me disais, voilà, s'il nous fait un caca nerveux comme d'habitude, il va me pénaliser, quoi. Et en fait, il a éprouvé le besoin de souffler. Donc au ravitaillement d'Ontex, moi, je suis passé en courant dans le ravitaillement. Mon père a juste eu le temps de me donner les deux flasques en courant à côté de moi et je suis reparti. Et au bain, lui a marqué une pause de plus de 2 minutes en mangeant un petit peu, en buvant son shaker de whey qu'il a relancé. Et ensuite, il a trottiné sur un rythme pas très très bon pour arriver au ravitaillement de coin du bois. Donc il a dû encore perdre 2-3 minutes rien qu'en courant sur cette section. Mais voilà, 2-3 minutes au ravito plus 2-3 minutes sur la section où on court. Et forcément, quand on arrive au ravito d'après, il y a 6-15 entre nous. Mais à ce moment-là, moi je ne savais pas parce que je passe le ravitaillement et je repars. Et en fait, à ce moment-là, Aubin était relancé et il était prêt mentalement à aborder la dernière montée de la meilleure des façons. D'autant plus qu'il apprenait sans doute que ça revenait un petit peu de l'arrière, puisque à Ontex, il avait 10 minutes d'avance. Et alors ça, il l'a pas appris, mais en fait, Antonin Mareka, il s'était rapproché à 4 minutes. Et Antonin a fait une très bonne section, puisqu'il n'a pas perdu de temps sur moi. Enfin, il a perdu... Ouais, 6 minutes quand même. Si on compte les secondes, il a perdu 1 minute. 50 secondes. Donc voilà, Antonin fait une très très belle course. Donc Aubin, s'il veut rester deuxième, faut pas craquer. Mais on arrive face à la section, sa section préférée, c'est-à-dire la montée avec les bâtons. Alors, moi j'ai pas aimé cette montée, je vous expliquais pourquoi. C'était extrêmement frustrant. En fait, dimanche, clairement, c'était une de mes plus belles journées de l'année où j'étais très en forme. Je dirais que j'étais autant en forme que lors de la Trans Grand Canaria. D'ailleurs, ça devrait se confirmer sur l'index UTMB que je vais vous mettre en bas du document. Et je courais tout le long, toutes les montées. Voilà, j'ai pas senti d'essoufflement particulier, d'épuisement. Et dans cette dernière montée, en fait, si on regarde simplement le profil, on se rend compte que c'est très raide, mais pas tout le temps. Du coup, celui qui connaît pas le terrain pourrait se dire, et qui est très fort, avec le niveau que j'avais, il y a des gens qui sont bien plus forts, hein. Par exemple Seb Speller avait mis 6h41, enfin sur ce parcours ça vaut 6h46, mais bon. Puis moi je mets 7h32 quoi. Donc à mon niveau, on pourrait se dire, les parties en bleu clair, je les cours, et les parties en bleu foncé, je les trottine. Ce qui veut dire que grosso modo, je vais passer 2 minutes de mon temps à trottiner, et là, je vais en mettre plein partout dans la gueule aux autres. Et je vais passer 2 minutes de mon temps à faire une marche active. Et là, je serai sur le niveau des autres. Ce qui fait que je vais augmenter mon avance tout du long de cette montée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce chemin est complètement défoncé. Ce chemin, au fur et à mesure du temps, il pleut. Enfin voilà, il s'abîme vraiment beaucoup parce qu'il est en bord de falaise, etc., etc. Il est très, très sujet aux intempéries. Là, en plus, avec l'automne, il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées. Il y avait vraiment du vent, là, dans cette section. C'était très bizarre, d'ailleurs. Et en fait, ce chemin, la plupart du temps, le sentier, il est tout petit. Parfois, il est en dévers et on ne sait même pas où mettre les pieds, hein, sans déconner. Il y a énormément de racines. À certains endroits, c'est impossible de courir. Il y a beaucoup de cailloux aussi. Il y a des passages en bord de falaise avec une corde, etc., etc. Donc, vraiment, beaucoup de choses qui font que c'est très difficile de courir là-dedans. Et ça a été la remarque aussi de Thibaut Garivier, donc je vous ai écrit tel quel le commentaire qu'il a fait à ce sujet, hein, qui comme d'habitude avec Thibaut, on est sur une franchise, on est sur de la franchise, ouais. Il n'y a pas trop de langue de bois, je pense que Thibaut ne pourrait pas avoir une carrière d'homme politique, parce qu'il dit les choses telles qu'il les pense, et ça choque un peu le quidam moyen, c'est vrai. Voilà, donc je n'ai pas aimé cette section parce que j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer. Et en fait, au sommet de cette bosse, on arrive à ce qu'on appelle le Mollard Noir. Alors, rien à voir avec le Mollah Omar, notre islamiste préféré. Hein, non, ça s'appelle le Mollard Noir, je sais pas pourquoi. Là-haut, il y a un joli point de vue à 360 degrés. Il y a eu des belles photos qui ont été prises. Je vais vous les inclure également. Et après, en fait, vous avez un bon kilomètre de faux plat montant. Et là, en 2020, j'étais un peu cuit, donc je crois que je l'avais quasiment tout marché. Et là, cette année, bah, ça y est, le kilomètre est pas trop technique. Encore qu'il y a pas mal de cailloux, mais bon, vu que le chemin est large, on peut les éviter. Et du coup, j'ai tout couru pour me rendre auprès de Romain Gras, qui a eu la gentillesse de nous faire l'assistance tout là-haut. Et Romain, il a vu arriver un Hugo en pleine forme. Alors, en pleine forme, c'est relatif, puisque j'avais beaucoup de retard sur mon temps prévu, en fait. J'avais un peu oublié que ce chemin était si technique que ça. En fait, j'y vais assez peu dans ce chemin. J'y suis allé un petit peu quand je préparais le Grand Raid de la Réunion et l'échappée belle. Mais après, il est vraiment très technique. Donc, que ce soit en descente ou en montée, c'est dur de faire vraiment de la course à pied. Et du coup, pour des objectifs de trail un petit peu roulants, bah, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, j'évite d'y aller en général. Et j'avais oublié un peu l'état du chemin qui est quand même vraiment très très déplorable. Alors, c'est joli, hein, c'est sûr, mais putain, pour courir, faut... faut être déjà très doué. Donc voilà, c'est vrai que j'arrive avec beaucoup de retard au niveau de Romain. Très exactement 22 minutes de retard. Alors, il y avait 7 minutes d'aller-retour non prévu. J'avais complètement zappé cet aller-retour au ravitaillement avant le col du chat. Et donc, il y a quand même un quart d'heure de... bah de caresses, hein, osons les mots, dans cette montée. Voilà, parce que ça m'a agacé de tomber sur un chemin qui ne me convenait pas. Du coup, je me suis démobilisé et regardez-le. C'est le cas sur cette courbe cardiaque. Regardez, cette courbe cardiaque est absolument lamentable. On dirait que j'ai fait que de la descente, alors que j'étais dans une montée raide. Mais parce que j'ai été démobilisé mentalement, et il faut le dire, j'ai pas su identifier ce moment, j'ai pas su me faire violence pour me réactiver un petit peu. C'est vrai, voilà, là on est sur une partie de la course que j'ai un peu délaissée, et derrière, bah, ça se traduit immédiatement par une perte de temps. Donc il y a ce point-là qui serait amélioré. Au sommet, néanmoins, j'ai repris 3 minutes d'avance à Antonin Marécaille, et en fait, fait de course intéressant, Aubin n'a perdu que 5... Non, il m'a même repris 5 secondes. Donc, il a fait toute la course sur le même chrono, et en fait, Romain Gras, qui est au sommet, me dit... Aubin est passé en bas de la montée avec seulement 6 minutes de retard sur toi. Ce qui voulait dire qu'Aubin n'avait pas craqué, donc j'ai été très content de l'apprendre. J'ai effectué ensuite, il y a 1,5 km de plat, à une allure tout à fait convenable, avant la dernière descente, et là, bah, c'est 7 km de descente avec 1200 mètres de dénivelé pour rejoindre le Bourget. Alors cette descente, au début, il y avait vraiment énormément de feuilles sur le chemin. Alors vous allez me dire, ouais, non mais Hugo, t'es vraiment un blaireau, c'est l'automne, c'est normal. Oui, mais en fait, ce jour-là, il y avait beaucoup de vent du sud, très violent. Et du coup, ça a beaucoup secoué les arbres et il y avait, je pense, un peu plus de feuilles que d'habitude. Voilà, je le connais quand même, ce chemin, et là, vraiment, on voyait rien. Donc, je dirais que le premier tiers de la descente a été très prudent. Et puis ensuite, les deux derniers tiers de la descente... Alors, j'avais très très mal à mon pied droit, hein, ça, vraiment, ça, c'était très agaçant. Mais, voilà, après, je suis descendu de manière, je dirais, correcte. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce qu'on appelle une descente suicide. Aubin, par contre, est descendu très très vite parce qu'il m'a... Enfin, très très vite. Il est descendu assez vite parce qu'il m'a repris 1 minute 30 dans la descente. Enfin, 1 minute 20. Et moi, voilà, je suis descendu assez fort, hein, quand même. Je relançais, je déroulais les jambes, etc. Mais je suis pas allé chercher les appuis frauduleux, la sortie de virage en engageant le corps. Voilà, j'avais une petite marge, une petite soupape. Je me suis dit, voilà, à la limite, Hugo, ce que tu fais quand t'arrives sur le... Il y a 1,5 km à la fin, c'est de la route et de la piste forestière. Là, t'envoies les gaz, mais jusque-là, écoute, pas d'entorse. Ce serait quand même très con de foutre en l'air. Moi, j'ai encore de très jolies choses à faire avant Noël, et puis même après. Donc voilà, on va éviter d'aller voir le kiné, l'ostéo, toutes ces conneries, quoi. Que tu gagnes en 7h28 ou en 7h32, tout le monde sera content. Donc, autant ne pas se faire mal pour avoir du plaisir jusqu'au bout. D'autant plus que, voilà, là, à ce moment-là, que je prenne énormément de risques ou que je descende sur un rythme très correct, ça allait se jouer à 3-4 points sur l'index UTMB, donc il n'y avait pas grand-chose à aller chercher. Le job était fait. Le job était fait et on assure un petit peu. Néanmoins, je suis descendu à un peu plus de 12 de moyenne quand, en 2020, je suis descendu à 10,5 de moyenne. Voilà, pour replacer les choses dans leur contexte. Et le dernier kilo, 3,45. Eh ouais, mon pote, il y avait Jocelyn Becherel qui habite sur le bassin chambérien, lui aussi, hein, qui est venu voir l'arrivée. Sympa, Jocelyn. Fait toujours plaisir. Et voilà, et puis admirer une belle fin de course à 16 km/h. Alors, en conclusion, quelques perspectives pour aller plus loin. Non, c'est pas ça la chanson. Comment faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Là, il faut savoir, je participe à une course de 7 heures qui est très dure mentalement. Et j'ai fait l'UTMB il y a 2 mois. À aucun moment, un entraîneur va vous dire que pour préparer un objectif de compétition sur un effort de 7 heures, à aucun moment cet entraîneur va vous proposer un 100 miles 2 mois avant. Jamais, ça n'existe pas. Si vous voulez absolument faire un 100 miles la même année que vous préparez un effort de 7-8 heures, il va falloir l'espacer beaucoup, beaucoup, beaucoup et à mon avis, au moins 4 mois entre les deux. Pourquoi ? Pour digérer le 100 miles et pour préparer correctement avec un travail des allures spé et surtout pour avoir suffisamment de fraîcheur pour cet effort de 7h30 qui va être très, très, très impactant mentalement parce que vous allez devoir courir vite, vous allez devoir effectuer le maximum de temps possible à votre SV2 et même un peu au-dessus, comme on peut le voir sur mon début de course. Et vous allez devoir ensuite utiliser vos ressources mentales pour résister à la douleur, ce que je n'ai pas su faire dans la dernière heure. Enfin, dans la dernière montée, parce qu'après la dernière heure, c'était la descente. Donc, il faut rompre avec l'ultra quand on veut préparer correctement ce genre de course. Ensuite, il faut ne pas avoir cette ampoule au pied droit. Ça, c'est le point le plus facile à travailler pour moi. Et vous allez le voir, là je vais pas faire d'ultra tout l'hiver, mon prochain ultra, le 100 miles, sera le 100 miles of Istria mi-avril. Et début mars, je vais faire le trail de Vulcain, qui est un 80 km mais qui est très facile, enfin d'un point de vue technique, et qui se gagne je crois à 12 de moyenne. Et vous le verrez, j'en serai je pense tout à fait capable, puisque mon dernier ultra sera l'UTMB fin août, et le Vulcain sera début mars. Donc, j'apporterai la preuve à cette perspective début mars. Et enfin, un truc un peu utopiste, ce serait refaire le sentier de la dernière montée. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut le savoir, un chemin, c'est pas quelque chose qui est né comme ça dans la nature, c'est quelque chose qui a été fait parce que beaucoup d'hommes, enfin d'humains, j'englobe aussi les femmes bien sûr, ont marché dessus. Et en fait, à des moments, les gens retouchent un peu le chemin en mettant des coups de pioche et tout, parce que le terrain s'affaisse, parce qu'un arbre tombe, parce que ci, parce que là. Et voilà, on peut, ça s'appelle l'entretien des chemins. Vous avez des associations qui font ça. Les chasseurs, quand ils sont pas obèses et bourrés, ils entretiennent un peu les chemins. Donc les bons chasseurs, on va dire. Et les organisations de trail, c'est le cas du trail niveau les Revards. On passe régulièrement 1, 2, 3 jours avec les pelles, les pioches, la tronçonneuse pour que le jour de la course, vous ayez le chemin le plus beau possible. Et évidemment, après, bah, tout l'été, n'importe quel randonneur va bénéficier de l'entretien des chemins que nous faisons. Donc, une petite pique amicale à nos amis chasseurs parce que chez les chasseurs, c'est comme chez les plombiers, c'est comme chez les avocats, c'est comme chez les médecins, c'est comme chez les ouvriers du BTP, c'est comme partout. Vous avez la team connard et vous avez la team sympa. Et j'aimerais m'adresser à la team connard, donc c'est ceux qui tirent sur vos gosses en ayant picolé, en disant que putain, il y avait du soleil, ça m'a ébloui. J'ai cru que Marceline, 6 ans, avec ses petites couettes blondes, c'était un marcassin, j'ai tiré. Là, tu dis, non mais attends, c'est pas possible. Et puis, vous avez des très très bons chasseurs, donc ceux qui, voilà, qui vous saluent quand vous courez en forêt, qui entretiennent les chemins, qui ne tirent sur le gibier une fois qu'ils ont clairement le truc dans la cible, en ayant identifié que c'était bel et bien le gibier qu'ils sont autorisés à tirer, parce que sur votre permis de chasse, vous avez, voilà, il faut, vous avez pas le droit de dézinguer 3000 sangliers par an, vous avez un certain quota, même si pour le sanglier, on peut y aller. Bref. Le mauvais chasseur, celui qui se plaint, qui dit « Ouais, les trailers, ces enculés !» Alors c'est vrai, il y a des trailers, ces enculés. Mais quand il y a une compétition sur votre territoire, sachez-le, l'organisateur, en général, dans 99% du temps, il va entretenir le sentier. Et finalement, si vous pouvez vous déplacer tranquillement avec votre chien pour chasser, c'est parce que les chemins ont été entretenus soit par vos potes chasseurs, soit par les associations de marche locales, les petits vieux là, soit par l'organisation d'une course. Donc, soyons tolérants les uns envers les autres. Moi, j'aime beaucoup les chasseurs qui sont autour de Chambéry. Je m'entends très très bien avec ces gens-là. Et je suis toujours triste de constater qu'à d'autres endroits de France, eh bien, il n'y a pas d'entente qui règne. C'est bien dommage. Alors, pourquoi revenir sur cette course ? C'est la troisième fois que j'ai effectué le tour complet. Quatre fois, si on compte la faux, je l'ai fait en relais. C'est l'avantage de courir à la maison. Là, c'est dimanche matin. Je peux bosser le samedi, je peux bosser le vendredi soir, pas de problème. Donc ça, c'est sympa. Les amis, la famille, ils peuvent venir. C'est pas loin de chez eux. Beaucoup de monde pour m'encourager. Le parcours, il est connu. C'est facile de... Enfin, facile. Il est pas trop technique. On peut courir vite sur ce parcours. Donc la cote UTMB, en général, elle est toujours pas généreuse, mais honnête. Donc ça fait plaisir. Et surtout, quand on connaît le parcours, qu'on vient et qu'on revient, c'est ce que je dis souvent en podcast, voilà, quand on me demande pour les allures de course, et ben quand on vient et on revient, c'est toujours plus simple d'établir ces temps de passage entre les ravitaux. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a de nombreux trails qui sont magnifiques et on a tous envie de les faire. Mais aussi, bah, de temps en temps, quand vous avez l'occasion de revenir, par exemple, ceux qui font plusieurs fois le Festival des Templiers, parce qu'il y a quand même une ambiance sympa, ceux qui font plusieurs fois l'UTMB, plusieurs fois le Trail du Ventoux, plusieurs fois le Marathon du Mont-Blanc, ces belles courses emblématiques françaises, là, vous avez des temps de passage que vous pouvez affiner chaque année, mais aussi, on a tous notre petite course de cœur locale qu'on aime faire et refaire, et c'est pareil, pour améliorer un peu sa performance à la maison, et pour épater la galerie, hein, la famille, les collègues de boulot, tout ça, et vous pouvez là aussi établir un très bon temps de passage. Alors, pourquoi je ne reviendrai pas tout de suite ? Mentalement, cet effort de 7h30, ça ne se fait pas comme ça, hein, y a un peu de souffrance, de dépassement de soi, et ça ne se fait pas tous les 4 matins. Hein. Là, j'enregistre ce podcast jeudi matin. J'ai encore des petites courbatures, hein. Si je contracte mes muscles comme un bourrin, j'ai mal, hein. Je vais pas faire des squats aujourd'hui, et puis je vais pas aller y courir non plus, alors je pourrais aller courir, mais je fais le choix d'observer une semaine de repos pour vraiment bien récupérer en allant me faire masser, en allant chez l'ostéopathe pour repartir tout neuf pour la suite des opérations. Voilà, plutôt que de faire des longues coupures un peu inutiles, parce que finalement il y aura des adaptations, et puis en fait le repos tout seul ne suffit pas, hein. Il faut des chocs. C'est-à-dire de l'ostéopathie, des massages, des automassages, on peut s'automasser. Là, j'ai acheté mes petites huiles de massage Montée Mon Nature, qui sont fabriquées, enfin c'est la dame qui les fait elle-même chez elle. Donc je m'automasse avec aussi, hein, bien sûr. Et puis le petit geste du professionnel une fois tous les 2 mois, on va dire. Voilà. Alors pourquoi je ne reviendrai pas tout de suite ? Bah, c'est cette lassitude, il faut de la fraîcheur. On voit Seb Speller au Templier, il n'a pas effectué une très très bonne course cette année, parce qu'il revient chaque année, c'est... On peut pas lui demander à Seb, on peut pas lui demander chaque année de courir à 915 index UTMB, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop impactant mentalement, il faut retrouver un peu de fraîcheur et un peu d'envie. Et peut-être que Seb, il a besoin de couper un an ou deux avec les Templiers avant de revenir et de les matraquer, quoi. Et puis aussi, à cette date-là, il y a les Templiers, et l'an prochain, s'il n'y a pas le live Transvulcania by UTMB à animer, normalement, j'ai pas d'animation sur le terrain à cette date-là. La tentation de revenir au Templier est forte. Voilà, malgré le fait que je veuille quand même faire l'UTMB avant et que je ne serai pas forcément à 100%. Avec un chrono de 7h32 ici, sans une grande densité autour de moi, on peut, voilà, je peux légitimer au Templier à faire une très très belle course. Quand je vois mon ami Mathieu Simon qui cette année fait 3e, c'est, bon, y avait moins de niveau, hein, mais son chrono est génialissime. C'est inspirant. Voilà, c'est inspirant. Mathieu, il m'avait mis 3-4 minutes dans la vue au Grand Trail du Lac 2020. Et là, sur la version 2022, mon temps est meilleur parce qu'il faut retirer 7 minutes à mon temps pour obtenir le même temps qu'en 2020 du fait de ce kilomètre de déviation. Donc, j'aurais mis 7h25 en 2020. C'est le troisième temps sur ce parcours. Baptiste Chassagne avait mis 7h18. Et puis Seb Speller, 6h41, quoi. Donc voilà, quand vous regardez le classement de cette année, bien pensez à retrancher, hein. Moi, il m'a fallu 7 minutes pour faire le détour au ravitaillement du coin du bois. Je vous laisse là-dessus, je pense que vous avez un joli document à éplucher. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle revue de presse, et vous allez le voir. Même si c'est pas le Grand Raid, même si c'est pas les Templiers, il y a des trucs sympas à voir ce week-end. Salut!